c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Bien que les politiques de diversité et d'inclusion se multiplient dans les milieux professionnels, les réalités vécues sur le terrain révèlent des défis persistants et complexes, notamment la santé psychologique des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Pour en discuter, nous recevons Michele Baiocco, qui est doctorant en psychologie à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, chercheur sur les enjeux d'incivilité au travail et psychothérapeute, hein, spécialisé dans les accompagnements des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à l'émission, Michele.
Merci, merci pour l'invitation, Denis Martin Chabot.
Ben, ça me fait plaisir. On observe une volonté affichée d'inclusion dans de nombreuses entreprises. Pourtant, la détresse psychologique là, reste marquée chez les travailleurs issus de la diversité sexuelle et de genre. Selon vos observations là, faites sur le terrain, les milieux de travail sont-ils réellement devenus plus sécuritaires ou assistons-nous simplement à un déplacement de la discrimination vers des formes peut-être plus subtiles, plus difficiles à identifier?
Excellente question. En fait, d'abord, probablement qu'ils sont devenus plus sécuritaires physiquement, en fait, ces milieux de travail, grâce notamment aux chartes et lois qui protègent les personnes LGBTQ+, finalement, de formes plus flagrantes de violence, notamment, basées sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. Néanmoins, je pense que les milieux de travail ne sont pas nécessairement devenus plus sécuritaires psychologiquement. Donc, on pourrait définir, en fait, la sécurité psychologique comme le climat, en fait, qui nous permet de nous sentir à l'aise d'être soi-même, sans crainte de conséquences. Et la présence de microagressions, de blagues LGBTQ+ phobes dans les milieux de travail peuvent signaler, en fait, aux personnes LGBTQ+, qu'elles se trouvent dans un milieu de travail dans lequel il y a encore des préjugés à leur égard, puis qu'être soi-même, ça peut venir avec des conséquences autant sociales que professionnelles. Donc, je dirais qu'effectivement, les formes de discrimination sont devenues plus subtiles et plus difficiles à détecter en soi.
En lien avec vos recherches là, sur la gestion d'identité, on analyse souvent une dynamique entre le dévoilement, hein, le fameux coming out, et la dissimulation de l'orientation sexuelle. Pourquoi ce choix constant de sortir ou non du placard représente-t-il une charge mentale si lourde dans un contexte professionnel?
Je vous dirais que c'est assez complexe, en fait, toutes les décisions qui entourent le dévoilement ou la dissimulation. En fait, au cours des dernières années, je me suis intéressé justement à ces questions-là, particulièrement dans le cadre du projet de recherche « Sa vie LGBTQ
Oui.
», qui a été dirigé par Martin Blais, Lynn Chamberlain de l'UQAM et Isabelle Côté à l'UQO. Et en fait, ce projet de recherche visait à notamment documenter l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ+, à travers le Québec. Et on a constaté, en fait, on avait des données sur le degré de dévoilement et de dissimulation des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. Et on voit qu'il y a différentes différences, autant individuelles que plus liées au milieu de travail, dans le sens que du côté individuel, les personnes qui s'identifient comme gays et lesbiennes ont davantage tendance à se dévoiler, versus ces personnes qui s'identifient comme bisexuelles, pansexuelles ou queer, au moins cette tendance-là à se dévoiler plus directement ou plus amplement en milieu de travail. Le fait aussi de percevoir que notre milieu de travail n'est pas suffisamment acceptant ou le fait de percevoir des microagressions en milieu de travail vient aussi avec moins de dévoilement chez ces personnes-là. Donc, il y a toute une énormément de prises de décision à savoir à qui on va le dévoiler, dans quel contexte, et ça devient une charge à la longue, en fait, en soi, qui génère un stress et qui peut mener finalement à de l'épuisement chez les travailleurs en soi. Donc, c'est assez complexe à évaluer. Et c'est invisible, en fait. C'est une charge de travail invisible en soi qu'il faut aborder, qu'il faut sensibiliser les organisations aussi à cette charge-là et essayer de la prévenir en soi.
Et je vais pas aller dans l'anecdote, mais bon, moi, j'ai dû faire un coming out dans une grande organisation, en l'occurrence Radio-Canada, quand j'ai travaillé là. Puis j'avoue que ça a été une décision qui était compliquée à prendre. Alors, j'imagine que ça ne s'est peut-être pas amélioré depuis le temps où on aurait espéré, mais en tout cas, le fait de dévoiler qui on est, notre identité sexuelle ou de genre, est-ce que ça peut être un gage de bien-être ou ça peut aussi fragiliser la position de l'employé?
Oui, c'est une bonne question. Je vous dirais que ça dépend des conditions dans lesquelles ça se trouve, d'où la charge de travail, la charge mentale plutôt. Si on est pris à devoir évaluer les coûts et les bénéfices finalement de se dévoiler à certains acteurs dans certains contextes, des éléments comme ça. Les études notamment sur le sujet mettent en évidence que le fait de pouvoir dévoiler librement son orientation non hétérosexuelle en milieu de travail vient avec davantage de satisfaction au travail, avec davantage un sentiment de connexion avec les autres. un plus grand engagement organisationnel, qui est finalement un peu un lien d'attachement qu'on développe avec notre organisation et qui contribue à ce qu'on reste plus longtemps en milieu de travail. Mais pour ça, pour pouvoir se dévoiler librement, ben, faut pouvoir évoluer dans un milieu de travail où c'est sécuritaire de se dévoiler, où c'est sécuritaire finalement de se montrer vulnérable dans une certaine mesure, puis qu'il n'y aura pas de conséquences sociales ou professionnelles à cela. Donc, il y a vraiment une combinaison en fait de facteurs individuels et liés à l'organisation qui font que ce dévoilement peut se faire librement. Et quand on est pris finalement, puis qu'on est contraint à se dissimuler, ça vient avec davantage d'anxiété, davantage de stress, notamment lié au fait que ça s'apprenne par les autres en soi. Ça vient avec plus d'émotions négatives en soi, avec moins de satisfaction, moins d'engagement au travail. Ça amène aussi les personnes LGBTQ+ à moins se sentir authentiques au travail, sentir qu'elles doivent être une autre personne dans leur milieu de travail versus dans d'autres sphères de leur vie. Puis il y a aussi des avantages de la dissimulation, c'est que ça peut éloigner les personnes LGBTQ+ des sources de soutien qui sont accessibles en milieu de travail. Et cette dissimulation-là peut contribuer à l'invisibilisation en fait, des personnes aussi LGBTQ+ en milieu de travail. Donc, ça a quand même plusieurs conséquences à la fois individuelles qu'organisationnelles, finalement, la dissimulation.
Oui, plusieurs choses à considérer. Votre thèse porte spécifiquement sur les incivilités, comme le fait d'être ignoré ou de subir des remarques condescendantes. J'ai rien contre les gays, j'ai plein d'amis gays, blablabla. Bla, bla. Ou peut-on nous donner, pouvez-vous nous donner des exemples peut-être concrets là, de ces micro-agressions que les personnes de nos communautés subissent encore là, de nos jours?
Bien sûr. Donc, je pourrais débuter avec un peu une définition de ce que sont les micro-agressions. Donc, en soi, c'est des actions ou des paroles qui, bien que parfois non intentionnelles, véhiculent des préjugés LGBTQ+ phobes dans les interactions au quotidien, notamment au travail. Donc, ça peut prendre la forme de compliments déguisés. Donc, par exemple, lorsqu'on nous dit « Ah, t'as pas vraiment, tu n'as pas l'air d'être une personne LGBTQ+, ou tu n'avais pas l'air d'être une personne LGBTQ+, ou des sous-entendus. Est-ce que ton orientation sexuelle, c'est une phase ou c'est du sérieux? Ou même des blagues. Tant que tu ne viens pas me croiser, c'est correct.
Moi, j'ai une réponse à ça qui n'est pas toujours très gentille. Je dis toujours à la personne « T'as aucun souci à avoir là-dessus.
» C'est ça. Puis, il y a aussi des questions intrusives, des fois. Tu sais, quand on pose la question, notamment auprès des gays et lesbiennes, c'est qui l'homme, la femme dans le couple?
Ah,
donc, toutes ces micro-agressions-là pèsent et génèrent un certain stress. Puis, ça signale aussi aux personnes qu'elles sortent de la norme. C'est comme leur répéter constamment dans les interactions sociales qu'elles sont en dehors de la norme, qu'elles sont stigmatisées, des éléments comme ça. Et donc, voilà différentes manifestations en fait de ces microagressions. Il y a aussi le fait de présumer de l'hétérosexualité d'une personne aussi qui peut être une microagression vécue en milieu de travail. Et c'est ça, en fait, c'est le cumul de ces microagressions-là, de ces incivilités-là, qui crée en fait des impacts négatifs auprès des travailleurs LGBTQ+.
Mais je pense que les personnes trans aussi en subissent pas mal, là, à savoir est-ce que tu as été opéré, est-ce que tu fais encore pipi debout. J'en ai tellement entendu, pas ici à Canalem, mais ailleurs. C'est vraiment pas facile. Alors, certains pourraient percevoir ces gestes comme anodins, des simples maladresses, mais on vient de le dire, là, ces petits gestes-là, ça a des impacts au bout du compte et ça peut mener à l'épuisement professionnel, puis ça peut même mener aux gens qui quittent carrément leur emploi, là.
Absolument, oui. Donc, ça a des effets cumulatifs, excusez-moi, et délétères sur la santé psychologique, ces microagressions, ces incivilités-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi, les microagressions sont vécues aussi par différents groupes stigmatisés. Donc, le fait de faire partie aussi de différents groupes stigmatisés peut multiplier, en fait, le nombre de microagressions et d'incivilités vécues en milieu de travail. Ces microagressions ont un impact parce que elles transmettent aussi de manière répétée, insidieuse, un message dévalorisant à l'égard, finalement, notamment des personnes LGBTQ+. Et en fait, ces microagressions deviennent des stresseurs chroniques qui peuvent nuire à la santé psychologique, qui se rajoutent aussi, finalement, aux autres stresseurs qu'on rencontre en milieu de travail. Et ça vient épuiser les ressources des travailleurs par le stress qu'elles génèrent, finalement, ces microagressions.
Continue.
Je t'écoute.
Allez-y. Oui, mais j'allais justement parler de est-ce qu'on peut dénoncer ces comportements-là? Est-ce que c'est pas évident parce que c'est des microagressions, c'est pas toujours pris au sérieux, mais parfois on a peut-être besoin de dénoncer, puis est-ce que ça fonctionne, ça?
Ça va varier d'un milieu à l'autre. Je pense que c'est important de sensibiliser sur ces microagressions-là et de parler des différentes manifestations. Tu sais, on a donné quelques exemples il y a quelques secondes. Et donc, donner des exemples en milieu de travail pour qu'on puisse comprendre finalement qu'est-ce qui représente une microagression et comment ça peut affecter aussi les travailleurs. Essayer de comprendre les conséquences et les rendre visibles. Je pense que c'est ça l'objectif aussi dans les organisations. C'est important de rendre visibles les microagressions et rendre visibles les conséquences que ça peut avoir parce que c'est souvent invisibilisé. On va aborder d'autres choses plus flagrantes, la violence, le harcèlement. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant puis d'en parler puis de. Avec les personnes concernées aussi pour qu'elles puissent parler de comment ça les fait sentir aussi de vivre ces expériences-là de manière continue et répétée.
Parlons du côté des employeurs. Qu'est-ce que, au-delà de mettre des beaux drapeaux inclusifs, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Il y a plusieurs stratégies. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, mettre en place une politique d'inclusion, puis pas changer la culture organisationnelle, pas changer les interactions sociales au quotidien, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est important de vraiment agir sur cette culture organisationnelle. Et moi, je débuterai en faisant un état des lieux dans l'organisation. Ça va vraiment changer d'un milieu à l'autre. Donc, état des lieux sur finalement à quel point les travailleurs sentent qu'ils évoluent dans un milieu sécuritaire psychologiquement, physiquement, à quel point ils sentent que leur milieu est inclusif. Et si ce n'est pas le cas, de quoi ils ont besoin? Demander finalement à ces personnes-là de quoi ils ont besoin, puis adapter selon les besoins des personnes concernées. Et en fait, depuis octobre 2025, avec la loi 27, je ne sais pas si vous en avez
Oui.
entendu parler, mais en fait, les employeurs doivent maintenant identifier et prévenir les risques psychosociaux du travail. Ça, c'est notamment le harcèlement, la violence en milieu de travail. Et mettre de côté les microagressions, les incivilités, ne pas les aborder, c'est un peu ignorer des facteurs de risque, finalement, de ces risques psychosociaux du travail. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant, d'en parler dans les organisations, de chercher à prévenir ces microagressions et incivilités avant qu'elles deviennent finalement des risques psychosociaux du travail plus sévères, plus flagrantes finalement, et en soi, pouvoir créer un environnement de travail sécuritaire et inclusif pour tous. Enfin.
Mais c'est bien de le rappeler, les employeurs ont une obligation, là, c'est la loi
Absolument.
de protéger
Ouais.
les employés. On n'a pas beaucoup de temps, mais une personne là, qui se sent pas bien doit faire quoi là, dans ce milieu-là? Est-ce qu'elle doit tout de suite aller consulter puis faire quelque chose, mais ne pas rester là finalement, là?
Oui, ben, la première chose, c'est s'observer. Donc, observer des changements. Est-ce qu'on voit des changements dans nos émotions, notre anxiété, des éléments comme ça? Ce qui est certain, c'est demander de l'aide, ça peut aider. Donc, le fait de pouvoir demander de l'aide à des professionnels en santé mentale ou même à des alliés dans le milieu de travail pour voir finalement comment on peut agir dans
Puis
ces
pas
milieux-là.
rester seul, puis consulter
Absolument.
au besoin. On va devoir s'arrêter ici,
Exactement.
Michele. Merci
Pas
beaucoup
de
d'avoir été
souci.
avec nous.
Merci à
Michele
vous.
Bayoko, donc, qui a fait cette étude sur les milieux de travail inclusifs et les microagressions. Merci beaucoup.